Cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, John Wayne 1. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. John Wayne 1, ce sera John Wayne et le western, puisque John Wayne incarne le western. On a 50 ans de carrière entre 1926 et 1976. Il va jouer un grand nombre de westerns. À côté de cela, bien sûr, il y a d'autres films. On l'oublie parfois. Donc, ces westerns vont se manifester avec des petits rôles jusqu'aux années fin des années 30. Et puis, il y a le grand rôle qui le fait reconnaître. C'est La Charge Fantastique de John Ford. C'est à partir de là qu'il va vraiment connaître un succès. Alors, John Wayne, c'est un acteur de taille. Quand je dis de taille, il faut dire qu'à l'époque, les acteurs font une taille assez importante. Vous avez Gary Cooper, James Stewart, Henry Fonda, qui sont autour de 1m90. Plus tard, ce sera Charlton Heston. Et il y a aussi des petits comme Alan Ladd ou Audie Murphy, spécialiste de western de série B, qui tournent autour de 1m67-68. Bon, je n'insiste pas sur les tailles, mais les méchants à cette époque-là sont toujours petits. Humphrey Bogart, Edward G. Robinson, James Cagney, qui font les bandits qui sont à rejeter, les rebuts de la société, et qui sont d'une taille assez petite. Donc, quoi qu'il en soit, John Wayne, acteur de taille, et pas seulement par le fait qu'il est grand. Il a en effet joué dans un certain nombre de films, et ces films sont marqués réellement par sa personnalité. Alors, il y a quand même une opposition quand on examine John Wayne. C'est le fait qu'il va, d'un côté, être considéré par certains comme défendant les valeurs américaines à un degré important, et comme d'autres pensent qu'il est un véritable facho, qui est un réactionnaire et qui défend les valeurs américaines les plus repoussantes. Donc, le personnage de John Wayne, parfois, on a tendance à le confondre dans la vie et à l'écran. Et il n'a pas hésité à en jouer parfois. Alors, ces approches antinomiques, liberté, virilité, apologie de la guerre, réactionnaire de l'autre côté, sont réellement présentes. Elles sont présentes et il y a une dualité à travers un certain nombre de films. Alors, avant d'examiner les westerns, j'en prends un qui est symbolique et un film qui n'est pas un western, qui est aussi très symbolique. Le film qui est un western, c'est Alamo, Alamo en 1961. Et il va faire ensuite un film sur la guerre du Vietnam qui s'appelle Les Bérets Verts, qui celui-là est vraiment un réactionnaire. Alors, Alamo, c'est le siège de ce fort par les Mexicains et le sacrifice des Américains qui seront tous massacrés. À leur tête, il y a Davy Crockett, célèbre trappeur américain, qui est joué par John Wayne, et aussi d'autres personnages joués par des acteurs importants comme Richard Widmark, qui joue Bowie. Bowie qui avait inventé le Bowie Knife, qui était célèbre aux États-Unis, et qui sera repris d'ailleurs par le couteau des Marines. Bon, peu importe ces détails, ce n'est pas l'élément central. Dans le film, il défend la liberté, il défend la volonté de s'opposer à une dictature. Alors parfois on s'interroge, est-ce que c'est une bataille héroïque ou un sacrifice inutile ? Dans tous les cas, on a une volonté de défendre ces personnages. Et John Wayne défend la liberté. Et le film est quand même extrêmement beau. On a vraiment un film réussi. À l'opposé, et je prends un film qui n'est pas un western parce que c'est son second film, il n'y en a tourné que deux, qui s'appelle Les Bérets Verts. Alors, Les Bérets Verts, c'est une apologie de la guerre du Vietnam. Là, c'est vraiment assez choquant. En fait, il joue le film comme un scénario des films sur la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire John Wayne, officier, qui va essayer de convaincre un journaliste qui est opposé à la guerre, et finalement, il va réussir à le convaincre. Donc, le film est vraiment réactionnaire, et à un moment où l'on veut lutter contre la guerre du Vietnam, c'est un petit peu choquant. Alors, venons plus en détail au western comme Alamo. Alors, il y a la trilogie de la cavalerie. Trilogie de la cavalerie, c'est le massacre de Fort Apache, la charge héroïque et Rio Grande. Donc cette trilogie de cavalerie, c'est pas le seul à avoir fait des trilogies. Pensez à Sergio Leone, il a fait une trilogie dite des dollars, pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute, le Truand, et après la trilogie de Il était une fois, l'Ouest, la Révolution et l'Amérique. Donc la trilogie de cavalerie, Massacre de Fort Apache, Charge héroïque et Rio Grande, on va écouter tout de suite la musique de La Charge héroïque. On a dit que il y avait chez les Américains une tendance à minorer les Indiens, ou plus exactement les mépriser, les écarter, avec la phrase « Un bon Indien est un Indien mort » qui avait été prononcée à la fin du 19e siècle. Alors, on parle parfois du western qui va critiquer à partir de Little Big Man et d'autres films, Soldat Bleu, etc. Mais le Massacre de Fort Apache est déjà une critique de la cavalerie, puisqu'en fait, on a un personnage qui est joué par Henry Fonda, un officier rigide qui prend le commandement d'un fort, et il a sous ses ordres un autre officier à un grade plus bas qui est joué par John Wayne. Et en fait, le Massacre de Fort Apache, c'est en réalité le massacre de la cavalerie. En effet, Henry Fonda, c'est Custer. Alors, on ne l'appelle pas Custer, on n'ose pas dire son nom, mais c'est lui. Il commet des fautes graves qui entraîneront le fait qu'il sera tué. Et John Wayne, qui l'a critiqué pendant tout le film, à la fin, va faire face à quelques personnes et pendant 2 ou 3 minutes, il va le rendre héroïque, alors même qu'il a été nul dans sa manière de commander. Donc, c'est intéressant parce que John Ford est là déjà dans la critique de Custer, qui sera ensuite valorisé jusqu'aux années 60 et baissera ensuite dans l'imagerie qui lui est donnée. Alors ensuite, La Charge héroïque, dont on vient écouter le morceau, qui se situe là véritablement dans une ville de garnison. Souvent, les titres français sont nuls. La Charge héroïque, en réalité, s'appelle « Elle portait un ruban jaune ». Je ne vous le dis pas en américain, je suis nul, moi, de ce côté-là. Et « Elle portait un ruban jaune », c'est parce qu'il y a une jeune fille qui est amoureuse, et celle qui est amoureuse porte un ruban jaune, et elle hésite entre deux lieutenants. Quant à Rio Grande, là, il y a une volonté de la cavalerie d'aller chercher des prisonniers qui ont été pris par des Indiens, et ils vont passer le Rio Grande, c'est-à-dire qu'ils vont aller en territoire étranger faire une incursion qui est totalement irrégulière. Donc voilà pour cette trilogie. Alors par la suite, on revient en fait sur les westerns qu'il a pu tourner avec John Ford. Alors il faut savoir qu'avec John Ford, il a tourné plein de westerns où il n'est même pas crédité. C'est-à-dire qu'en 1928, en 1929, en 1930, il joue des westerns en sachant que ces films sont vraiment mineurs. On a réellement une montée en puissance de John Wayne avec le film que j'évoquais tout à l'heure, La Chevauchée Fantastique, 1939. On a une diligence qui comporte un certain nombre de personnalités, une jeune femme, un joueur, un tricheur, quelqu'un qui a pris la caisse, etc. Donc des personnages qui sont représentatifs de toute l'humanité. Et on va les voir poursuivis par les Indiens avec une scène célèbre où la diligence fonce et les Indiens courent derrière et sont tirés par John Wayne en particulier. Donc ce film marque son temps parce qu'il est original. Et il est original aussi, là encore il faut préciser, que fait John Ford ? Il va recruter et engager des Indiens à un tarif qui est fait pour les figurants, entre guillemets, normaux. Donc il est le premier à opérer une application du principe d'égalité entre les différentes catégories de personnes. Donc ça, il faut le souligner parce que on verra ensuite les Cheyennes, on verra d'autres films dans lesquels il sera un défenseur de la cause indienne. Alors après 1948, nouveau western John Ford, c'est ce que je cite ici, Le Fils du Désert. Alors là, c'est vraiment un western difficile à voir aujourd'hui, puisque trois personnes, dont John Wayne, vont recueillir un bébé qui est accouché dans dans un chariot, et la mère meurt. Donc ils vont s'en occuper, et ce sont en quelque sorte les trois parrains, les rois mages, etc. Donc c'est un peu ridicule quand on le voit aujourd'hui. La Prisonnière du Désert, 1956, c'est pour les critiques du cinéma parfois considéré comme le meilleur film de John Ford. Il s'agit d'un ancien combattant dont la famille est massacrée par les Indiens, et les Indiens enlèvent une jeune fille et sa nièce. Donc il va poursuivre celle-ci, il va poursuivre les Indiens au cours de plusieurs années avant de les trouver. On sent qu'il veut tuer la nièce, et puis finalement il la prend dans ses bras et il repart avec elle. Le personnage John Wayne est vraiment considéré par John Ford et par le scénario comme extrêmement critiquable. Il va même à un moment donné, face à un Indien qui est mort et qui est à terre, il va tirer sur ses yeux en considérant que si dans sa croyance il n'a pas ses yeux, il ne rentrera pas au entre guillemets paradis. Donc violence extrême et critique d'un personnage, pour une fois, on peut dire que John Wayne joue un personnage négatif. Alors il y a d'autres films qui peuvent apparaître, et notamment, on va le voir ensuite, il y a Rio Bravo qui est un film marqué par une musique qui est le Degüello. En fait, il faut savoir qu'à Fort Lamo, on a joué le Degüello, qui voulait dire que on ne pouvait pas garder quelqu'un vivant, donc les membres du fort qui seraient attrapés seraient massacrés. Et dans Rio Bravo, les bandits qui encadrent le bureau du shérif font jouer le Degüello, montrant comme cela qu'ils seront eux aussi massacrés. Voilà le Degüello. Thank you. Je passe sur Les Cavaliers, qui est un très bon film, mais on ne peut pas tout évoquer. Et je m'arrête en 1962 sur le chef-d'œuvre absolu, qui est L'homme qui tue à Liberty Valance. Alors là, John Ford fait une réflexion sur la force et le droit. Il montre dans une petite ville combien la domination par la force va s'exercer avant de passer à la domination par le droit. Mais il y a un intermédiaire. Il y a la domination par la force brute, méchante, et ensuite par la force brute, entre guillemets, gentille. Le méchant, c'est Liberty Valance, joué par Lee Marvin, second rôle puis premier rôle extrêmement génial, et la force plutôt bonne sera jouée par John Wayne. Et celui qui va triompher à la fin, c'est l'avocat. L'avocat est joué par James Stewart. Il vient dans la ville, il se trouve relégué à un rôle de serveur, méprisé par tous, et puis petit à petit, il va prendre une place de plus en plus grande. Et là où il y a un trucage, et c'est là le sens extrêmement génial du film, c'est que James Stewart va tuer Liberty Valance. Sauf qu'en réalité, on l'apprend dans un flashback, c'est John Wayne qui l'a tué, de côté, quasiment dans le dos, ce qui est contraire à toutes les règles du western. Donc le passage de la force au droit, c'est finalement une sorte de trahison et une manipulation. Mais malgré cela, James Stewart sera élu comme sénateur et on parle de lui comme candidat à la présidence. Donc sa carrière est fondée sur cela, l'homme qui tue à Liberty Valance, et c'est sa raison d'exister. Au-delà de John Ford, John Wayne va tourner avec quelques réalisateurs qui deviennent un petit peu favoris. Alors j'en prends un qui est Andrew McLagan. Il faut savoir qu'Andrew McLagan est le fils de Victor McLagan qui a joué souvent les seconds rôles dans les films de Ford. Il a joué deux rôles importants, deux premiers rôles dans les années 30 avec John Ford. Et donc ici, son fils est passé à la réalisation. Alors c'est le Grand McClintock en 1963. Là, c'est vraiment un western secondaire, je dirais anti-féministe, vraiment critiquable sur beaucoup de points. En 1969, c'est Les Géants de l'Ouest, la rencontre entre deux acteurs que tout sépare, Rock Hudson et John Wayne. John Wayne, c'est l'incarnation de la virilité, et Rock Hudson, il est homosexuel. Alors, est-ce que John Wayne le savait ou pas? En tout cas, s'il avait su, peut-être il n'aurait pas tourné avec celui-ci, vu son côté réactionnaire. Ensuite, 1970, Chisholm, un personnage de gros propriétaire qui va dominer son territoire. Et ensuite, Les Cordes de la Potence qui le conduisent là encore à être un marshal. Il est souvent shérif ou marshal. Alors, il y a d'autres westerns à part cela, des westerns tournés par divers réalisateurs. Certains reviennent régulièrement, comme George Sherman, ou quelques autres, Henry Hathaway par exemple. Donc, on a plusieurs westerns, Les Cavaliers de la Nuit en 1939, pareil en 1939, Le Bandit du Wyoming, Louis Frontier, Le Premier Rebelle, qui sont des westerns, je dirais, pré-chevauchés fantastiques, donc qui restent des films secondaires. Après, inutile de citer de trop nombreux films, on a en 1948 La Rivière Rouge. Alors, La Rivière Rouge, c'est une opposition entre Montgomery Cliff et John Wayne, qui ont un rapport de père à fils, mais qui sera violent et avec des rejets qui pourraient impliquer un duel, qui sera d'ailleurs écarté par une jeune femme, ce qui est assez rare. Alors, le film qui est là aussi fondamental, comme L'homme qui tue à Liberty Valance, c'est Rio Bravo, considéré par le meilleur western, comme le meilleur western, par notamment Quentin Tarantino. Et donc c'est War Dogs qui a fait ce film avec une sorte de huis clos dans la prison avec Walter Brennan qui joue un personnage âgé, Dean Martin, Ricky Nelson, et c'est là où on joue effectivement le Deguelio. On a de la part de War Dogs une sorte de double remake de Rio Bravo, c'est Eldorado en 1967 et Rio Lobo en 1970. Donc là, c'est Jack Elam, d'ailleurs, qui prend le rôle de Walter Brennan, ce qu'on peut appeler le vieux. Jack Elam, qui a joué des dizaines de fois, et qu'on voit au début de D'Ilété une fois en l'Ouest, celui qui coince une mouche dans le canon, dans le revolver. Alors après, on a le Grand Sam aussi, qui est un western qui se passe autour d'une concession. On a les Comancheros, où on retrouve Lee Marvin. Lee Marvin dans le rôle de ce Comanchero, c'est-à-dire celui qui va trafiquer avec les Indiens. Donc, pas mal de films. La Conquête de l'Ouest, où il fait une très courte partie. Les Quatre Fils de Cathy Elder, où il va jouer encore une fois avec Dean Martin. Et on va arriver à un double rôle de shérif sur lequel je vais revenir. Mais nous allons écouter le morceau de Big Jake parce qu'il y a une évolution à partir de 1971. On a même chez John Wayne, ou dans les films de John Wayne, une approche de violence peut-être influencée par le cinéma italien. Big Jake. Alors j'évoquais un double rôle pour John Wayne, en réalité le même personnage dans deux films différents. En 1969, il tourne $100 pour un shérif et ce film réalisé par Henry Hathaway montre un ancien shérif alcoolique qui est joué par John Wayne dans Roster Coburn qui est à moitié écroulé par l'alcool sur son lit et on voit une jeune fille arriver qui va lui demander de poursuivre quelqu'un qui a tué un proche. Donc ce personnage est assez rare chez John Wayne, c'est-à-dire il joue un petit peu de sa grosseur, puisqu'il n'a jamais été très attaché à être mince, il a grossi, et là on le voit particulièrement, et il est borgne. Donc ce shérif va suivre la volonté de cette jeune fille, alors même qu'elle ne veut pas l'accompagner, elle va réussir à se faire prendre par lui. Et il y a une scène assez forte où on voit John Wayne charger les personnages, les bandits qu'il poursuit, et tirer les uns et les autres. Donc, $100 pour un shérif, le titre, c'est True Grit. Et si je dis le titre, pourquoi ? C'est parce que les frères Coen ont fait un remake, True Grit des frères Coen. C'est avec Jeff Bridges qui fait le personnage de Roster Coburn, le personnage de John Wayne. Et ce film est beaucoup plus noir. Il est beaucoup plus noir, il est beaucoup plus sombre. Quoi qu'il en soit, pour revenir au premier True Grit, John Wayne arrive à obtenir son premier et seul Oscar. On peut dire qu'il l'a eu à l'ancienneté, parce qu'il ne le méritait pas pour ce film. On peut dire que vraiment, ça reste quand même secondaire par rapport à d'autres films importants. Et ça sera encore pire dans le film où il reprend le rôle de Roscoe Coburn, qui est, en 1975, Une Bible et un fusil de Stuart Millar, donc quelqu'un qui est inconnu. Et le personnage féminin qui est à côté de John Wayne, c'est Catherine Hepburn. Alors là, c'est assez étonnant, parce qu'on repense à certains films qui ont été joués par elle en duo, et on a du mal ici à véritablement croire à ce rapprochement entre les deux personnages. Alors, au-delà de ces deux films où ils jouent le même rôle, il y a Big Jake, que j'ai évoqué en vous faisant écouter la musique. Big Jake, c'est un groupe de bandits qui enlève le petit-fils de John Wayne, et donc sa grand-mère fait appel à lui, alors même qu'il est absent depuis un certain nombre d'années. Il y a un gag récurrent, c'est que plusieurs personnages lui disent « Mais je croyais que vous étiez mort ». Et à force, il finit par aller en disant « Mais attendez, c'est le suivant qui me dit que j'étais mort, je vais lui taper dessus ». Alors après les Cowboys 1972, alors là c'est intéressant, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est la seule fois où John Wayne va mourir dans un film. Et il meurt, non pas à la fin, mais aux trois quarts du film. Et ensuite, donc, le groupe de jeunes qu'il avait formé va le venger en poursuivant celui qui l'a tué. On a encore un certain nombre de westerns, comme Les Voleurs du Train, Les Voleurs de Train, Les Cordes de la Potence, mais je m'arrêterai sur le dernier film. Le dernier film est quand même extraordinaire. 1976, Le Dernier des Géants, de Don Siegel, qui est un grand réalisateur. Parfois, on l'oublie, il a véritablement révélé Clint Eastwood. Il a été un très très bon réalisateur, au départ série B et ensuite vraiment de grands films. Qu'est-ce qui se passe ? On voit un vieux cow-boy qui va consulter un médecin, joué par James Stewart, et celui-ci lui apprend qu'il a un cancer. Alors il va en quelque sorte convoquer trois bandits particulièrement dangereux, et à la fin donc il réussit à faire un duel avec les trois, et finalement il va mourir. Dans Le Dernier des Géants, atteint d'un cancer, qui va mourir, c'est John Wayne. Donc là encore, on rejoint la vie et la fiction, puisque quand John Wayne apparaît sur scène pour les dernières fois, il va être vraiment amaigri, il flotte dans sa chemise, etc. C'est vraiment assez étonnant et même, je dirais, surprenant, effectivement, de voir ce colosse dans cette évolution de physique. Donc, quoi qu'il en soit, Le Dernier des Géants, c'est le dernier film et c'est véritablement John Wayne lui-même, puisque Le Dernier des Géants, c'était lui. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Léo Touroult. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.